La vie sur le tapis roulant. La révolution industrielle se solda par un mélange sans précédent d'énergie abondante et bon marché avec des matières premières abondantes et bon marché. Il en résulta une explosion de la productivité qui se fit sentir d'abord et avant tout dans l'agriculture. Habituellement, quand nous pensons révolution industrielle, nous pensons au paysage urbain de cheminées qui fument ou au triste sort des gueules noires exploitées qui suent dans les boyaux de la terre. Mais la révolution industrielle fut avant toute chose la seconde révolution agricole. Dans les 200 dernières années, les méthodes de la production industrielle sont devenues le pilier de l'agriculture. Diverses machines, comme les tracteurs, se sont chargées de tâches jusque-là accomplies par la force musculaire, ou pas accomplies du tout. Champs et animaux sont devenus infiniment plus productifs grâce aux engrais artificiels, aux insecticides industriels, ainsi qu'à tout un arsenal d'hormones et de médicaments. Réfrigérateurs, navires et avions ont permis de stocker les produits des mois durant et de les transporter rapidement et à bon marché à l'autre bout du monde. Les Européens se sont mis à manger du bœuf argentin et des sushis japonais frais. Même les plantes et les bêtes ont été mécanisées. Alors que les religions humanistes élevaient l'Homo sapiens au rang de Dieu, les animaux de ferme ont cessé d'être considérés comme des créatures vivantes, capables de ressentir douleur et détresse, pour être traités plutôt en machines. De nos jours, ces animaux sont souvent produits en masse dans des installations qui ressemblent à des usines. Leurs corps sont façonnés en accord avec les besoins de l'industrie. Ils passent leur vie entière comme simple rouage d'une chaîne de production géante et ce sont les pertes et profits des sociétés qui déterminent la durée et la qualité de leur existence. Même quand l'industrie prend soin de les garder en vie, en relative bonne santé et bien nourrie, elle n'a aucun intérêt intrinsèque pour les besoins sociaux et psychologiques des animaux. À moins qu'il n'ait un impact direct sur la production. Les poules pondeuses, par exemple, se distinguent par tout un monde complexe de pulsions et de besoins comportementaux. Une forte démangeaison les pousse à explorer leur environnement, fourrager et picorer, à déterminer des hiérarchies sociales, construire des nids et faire leur toilette. Or, l'industrie de l'œuf les enferme dans des cages minuscules, parfois même à 4 par cage, ce qui leur laisse à chacune un espace au sol de 25 cm sur 22. Les poules reçoivent assez à manger, mais elles sont incapables de revendiquer un territoire, de se construire un nid ou de se livrer à d'autres activités naturelles. La cage est en fait si exiguë que souvent les poules ne peuvent même pas battre des ailes ou se redresser entièrement. Les cochons comptent au nombre des mammifères les plus intelligents et curieux, juste après les grands singes. Les élevages de porcs industriels n'en confinent pas moins les truies allaitantes dans des caisses si étroites qu'elles sont littéralement incapables de se retourner, sans parler de marcher ou de fourrager. Elles y sont maintenues jour et nuit, 4 semaines durant, après qu'elles ont eu des petits. Après quoi, ces derniers leur sont retirés pour être engraissés. Et les truies sont fécondées avec le prochain lot de porcelet. Beaucoup de vaches laitières passent la quasi-totalité des années de vie qui leur sont accordées dans un petit enclos, condamnées à se tenir debout, à se coucher et à dormir dans leur urine et leurs excréments. Une batterie de machines leur fournit leur dose de nourriture, d'hormones et de médicaments, tandis que, à heure régulière, une autre série d'appareils se charge de la traite. La vache, coincée entre les machines, est à peine plus qu'une bouche qui ingurgite des matières premières et un pis qui produit une marchandise. Traiter des êtres vivants possédant tout un univers émotionnel complexe comme des machines ne saurait être pour eux qu'une source d'inconfort physique, mais aussi de fort stress social et de frustration psychologique. De même que le trafic d'esclaves transatlantique n'était pas le fruit d'une haine vouée aux Africains, ce n'est pas l'animosité qui inspire l'industrie animalière moderne, mais l'indifférence. La plupart des gens qui produisent et consomment des œufs, du lait et de la viande prennent rarement le temps de penser aux poulets, aux vaches ou aux porcs dont ils consomment la chair ou les émissions. Ceux qui y pensent soutiennent souvent qu'en réalité ces animaux sont à peine différents de machines, dépourvus de sensations et d'émotions, incapables de souffrance. Paradoxalement, les mêmes disciplines scientifiques qui conçoivent ces machines laitières et pondeuses ont dernièrement démontré, sans doute possible, que mammifères et oiseaux ont une constitution sensorielle et émotionnelle complexe. Leur souffrance n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Suivant la psychologie de l'évolution, les besoins émotionnels et sociaux des animaux de ferme ont évolué à l'état sauvage, quand il était essentiel à la survie et à la reproduction. Par exemple, une vache sauvage devait savoir nouer des relations étroites avec d'autres vaches et des taureaux, sans quoi elle ne pouvait survivre ni se reproduire. Pour apprendre les connaissances nécessaires, l'évolution implanta chez les veaux, et chez tous les petits des autres mammifères sociaux, un fort désir de jouer. Jouer est la manière propre aux mammifères d'acquérir des compétences sociales. Et elle leur inculqua un désir plus fort encore de se lier à leur mère, dont le lait et les attentions étaient essentiels à leur survie. Que se passe-t-il, maintenant, si les paysans prennent un jeune veau, le séparent de sa mère, le placent dans une cage fermée, lui donnent nourriture, eau et vaccins contre les maladies, puis, quand la femelle est assez grande, lui insémine du sperme de taureau? Objectivement, le veau n'a plus besoin du lien maternel ni de camarades de jeu pour survivre et se reproduire. Subjectivement, cependant, le veau éprouve toujours un besoin très fort de s'attacher à sa mère et de jouer avec d'autres veaux. Si ses besoins ne sont pas satisfaits, il souffre terriblement. Telle est la leçon de base de la psychologie de l'évolution. Un besoin qui s'est formé à l'état sauvage continue d'être ressenti subjectivement, même s'il n'est plus vraiment nécessaire à la survie et à la reproduction dans les fermes industrielles. La tragédie de l'agriculture industrielle est qu'elle prend grand soin des besoins objectifs des animaux, tout en négligeant leurs besoins subjectifs. Le bien fondé de cette théorie est connu depuis les années 1950, quand le psychologue américain Harry Harlow étudia le développement des singes. Il sépara des bébés singes de leur mère quelques heures après la naissance. Les singes furent ensuite isolés dans des cages, puis confiés à des mères de substitution. Deux dans chaque cage. L'une était faite de fil métallique et équipée d'une bouteille de lait à laquelle le bébé singe pouvait téter. L'autre, de bois, était habillée de tissu qui lui donnait l'apparence d'une vraie maman singe, sans qu'elle n'ait rien de concret à offrir aux petits. On supposait que les petits s'accrocheraient à la mère nourricière métallique plutôt qu'à la mère de chiffon stérile. À la grande surprise de Harlow, les bébés singes montrèrent une nette préférence pour la seconde, passant le plus clair de leur temps auprès d'elle. Lorsqu'ils plaçaient les deux mères à proximité, les petits s'accrochaient au chiffon tout en tétant la mère métallique. Soupçonnant que c'était une question de froid, Harlow plaça une ampoule électrique dans la mère faite de fils de fer, désormais rayonnante de chaleur. Hormis les plus petits, la plupart des singes continuèrent de préférer la mère de chiffon. Les recherches ultérieures ont montré que les singes orphelins de Harlow souffraient adultes de troubles émotionnels alors même qu'ils n'avaient pas manqué de nourriture. Jamais ils ne s'intégrèrent dans une société de singes. Ils eurent des difficultés à communiquer avec leurs congénères tout en souffrant de forts niveaux d'angoisse et d'agressivité. La conclusion était incontournable. Les singes doivent avoir des besoins et des désirs psychologiques qui vont au-delà des nécessités matérielles. S'ils ne sont pas comblés, ils souffriront terriblement. Les petits singes de Harlow préféraient passer leur temps entre les mains de la mère de chiffon parce qu'ils avaient besoin d'un lien émotionnel et pas seulement de lait. Dans les décennies suivantes, de nombreuses études ont montré que cette conclusion ne vaut pas seulement pour les singes, mais aussi pour d'autres mammifères et pour les oiseaux. À l'heure actuelle, des millions d'animaux sont soumis aux mêmes conditions que les singes de Harlow, avec la routine des fermiers qui enlèvent les veaux, les chevreaux et les autres petits à leur mère pour les élever séparément. Au total, la vie de dizaines de millions d'animaux de ferme se déroule de nos jours dans le cadre d'une chaîne de montage mécanisée et autour de 10 milliards sont abattus chaque année. Ces méthodes d'élevage industriel ont permis une forte hausse de la production agricole et des réserves alimentaires mondiales. Avec la mécanisation de la culture des plantes, l'élevage industriel est la base de l'ordre socio-économique moderne. Avant l'industrialisation de l'agriculture, l'essentiel des vivres produits au champ ou à la ferme était gaspillé à nourrir les paysans et les animaux de ferme. Il ne restait qu'un petit pourcentage pour nourrir artisans, enseignants, prêtres et bureaucrates. Dans la quasi-totalité des sociétés, les paysans représentaient donc plus de 90% de la population. À la suite de l'industrialisation de l'agriculture, un nombre toujours plus réduit de paysans allait suffire à nourrir un nombre croissant d'employés de bureaux et d'ouvriers d'usines. Aujourd'hui, aux États-Unis, 2% seulement de la population gagne sa vie dans l'agriculture, mais ces 2% suffisent non seulement à nourrir toute la population américaine, mais aussi à exporter des excédents vers le reste du monde. Sans l'industrialisation de l'agriculture, la révolution industrielle urbaine n'aurait jamais eu lieu. Il aurait manqué de mains et de cerveaux dans les usines et les bureaux. Alors que ceux-ci absorbaient les milliards de mains et de cerveaux libérés des travaux des champs, il devait en résulter une avalanche de produits sans précédent. Les hommes produisent désormais bien plus d'acier, fabriquent beaucoup plus de vêtements et construisent bien plus de bâtiments qu'ils ne l'ont jamais fait. De plus, ils produisent un éventail ahurissant de produits inimaginables, comme des ampoules électriques, des téléphones cellulaires, des caméras et des lave-vaisselles. Pour la première fois dans l'histoire des hommes, l'offre a commencé à dépasser la demande. Ainsi est apparu un problème entièrement nouveau. Qui va acheter toute cette camelote? L'âge du shopping. Pour survivre, l'économie capitaliste moderne doit sans cesse augmenter la production, tel un requin qui doit nager sous peine de suffoquer. Mais produire ne suffit pas. Encore faut-il trouver des acheteurs, sans quoi industriels et investisseurs feront faillite. Pour empêcher cette catastrophe et s'assurer que les gens continueront d'acheter toutes les nouveautés que produit l'industrie, une nouvelle forme d'éthique est apparue, le consumérisme. Tout au long de l'histoire, la plupart des gens ont vécu dans la rareté. Leur mot d'ordre était la frugalité. Les puritains et les spartiates, avec leur éthique austère, n'en sont que deux exemples célèbres. Une bonne personne évitait le luxe, ne gaspillait jamais la nourriture et rapiéçait les pantalons déchirés au lieu d'en acheter des neufs. Seuls les rois et les nobles s'autorisaient à renoncer publiquement à ces valeurs pour étaler leurs richesses avec ostentation. Dans le consumérisme, consommer toujours plus de biens et de services est une chose positive. Il encourage les gens à se régaler, à se gâter et même à se tuer à petit feu par surconsommation. La frugalité est une maladie qu'il faut soigner. Nul n'est besoin de chercher bien loin pour voir l'éthique du consommateur en action. Regardez donc au dos de la boîte de céréales. Voici un extrait d'une boîte de mes céréales préférées pour le petit-déjeuner, produite par la société israélienne Telma. On a parfois besoin de se faire plaisir. On a parfois besoin d'un petit supplément d'énergie. Il y a un temps pour surveiller son poids et un temps pour se faire plaisir. Maintenant, Telma offre toute une variété de céréales savoureuses, rien que pour vous. Régalez-vous sans remords. Sur le même paquet figure une pub pour une autre marque de céréales, Regals Saints. Regals Saints offre quantité de céréales, fruits et noix, pour une expérience qui associe goût, plaisir et santé. Pour un petit extra en milieu de journée qui convienne à une vie saine. Un vrai régal avec le goût merveilleux du plus, souligné dans l'original. Pendant le plus clair de l'histoire, un texte de ce genre eût probablement inspiré le dégoût au lecteur. Ils l'eussent jugé égoïste, décadent, corrompu. Avec le concours de la psychologie populaire, Just Do It, le consumérisme s'est acharné à convaincre que le sybaritisme est une bonne chose, tandis que rester frugal, c'est s'opprimer soi-même. Il a réussi. Nous sommes tous de bons consommateurs. Nous achetons d'innombrables produits dont nous n'avons pas réellement besoin et dont, hier encore, nous ignorions l'existence. Les industriels conçoivent délibérément des produits éphémères et inventent inutilement de nouveaux modèles de produits qui donnent pourtant entière satisfaction. Mais il nous faut les acheter pour rester « in » dans le coup. Le shopping est devenu un passe-temps favori. Et les biens de consommation sont désormais des médiateurs essentiels dans les relations entre membres de la famille, époux et amis. Les fêtes religieuses comme Noël sont devenues des fêtes du shopping. Aux États-Unis, même le Memorial Day, initialement une fête solennelle pour honorer la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur, est aujourd'hui prétexte à des ventes spéciales. La plupart des gens marquent ce jour en faisant des courses, peut-être pour prouver que les défenseurs de la liberté ne sont pas morts en vain. L'épanouissement de l'éthique consumériste est on ne peut plus clair sur le marché de l'alimentation. les sociétés agricoles traditionnelles vivaient dans l'ombre effroyable de la famine. Dans le monde d'abondance qui est le nôtre, l'un des principaux problèmes de santé est l'obésité, qui frappe les pauvres, lesquels se gavent de hamburgers et de pizzas, plus fortement encore que les riches, amateurs de salades bio et de jus de fruits. Chaque année, la population américaine dépense plus d'argent en régime qu'il n'en faudrait pour nourrir tous les gens qui ont faim dans le reste du monde. L'obésité est une double victoire pour le consumérisme. Au lieu de manger peu, ce qui provoquerait une récession économique, les gens mangent trop puis achètent des produits diététiques, contribuant ainsi doublement à la croissance économique. Comment faire cadrer l'éthique consumériste avec l'éthique capitaliste de l'homme d'affaires, suivant laquelle il ne faut pas dilapider les profits mais les réinvestir dans la production? Élémentaire. Comme dans les périodes antérieures, l'élite et les masses se partagent le travail. Dans l'Europe médiévale, les aristocrates insouciants dépensaient leur argent en luxes extravagants, tandis que les paysans vivaient frugalement, comptant chaque sou. De nos jours, la table a tourné. Les riches prennent grand soin de gérer leurs actifs et investissements, alors que les moins nantis s'endettent pour acheter des voitures et des télévisions dont ils n'ont pas vraiment besoin. Les éthiques capitalistes et consuméristes sont les deux côtés de la même médaille, la fusion de deux commandements. Le commandement suprême du riche est « investis », celui du commun des mortels « achète ». L'éthique capitalistico-consumériste est révolutionnaire d'un autre point de vue. La plupart des systèmes éthiques antérieurs proposaient aux gens un marché assez rude. Ils leur promettaient le paradis si seulement ils cultivaient la compassion et la tolérance, dominaient l'envie et la colère et réfrénaient leurs intérêts égoïstes. Pour la plupart, c'était trop dur. L'histoire de l'éthique est la triste histoire de merveilleux idéaux que personne ne saurait atteindre. La plupart des chrétiens n'imitent pas le Christ, la plupart des bouddhistes sont incapables de suivre Bouddha et la plupart des confucéens auraient provoqué une crise de rage chez Confucius. À l'opposé, la plupart des gens aujourd'hui n'ont aucun mal à se hisser à la hauteur de l'idéal capitalistico-consumériste. La nouvelle éthique promet le paradis, à condition que les riches restent cupides et passent leur temps à se faire du fric, et que les masses lâchent la bride à leurs envies et à leurs passions et achètent de plus en plus. C'est la première religion de l'histoire dont les adeptes font vraiment ce qu'on leur demande de faire. Mais comment savons-nous que nous aurons vraiment le paradis en retour? Nous l'avons vu à la télévision.